L'Afrique du Sud, un berceau de l'humanité, c'est à une cinquantaine de kilomètres de l'actuel Johannesburg qu'ont été découverts deux des derniers trésors de l'histoire humaine, Littlefoot, un jeune australopithèque, et Naledi, la nouvelle star du genre Homo. Si l'âge de Naledi n'a pas encore été donné, la datation de Littlefoot a été récemment communiquée par des chercheurs français. 3,6 millions d'années, c'est ce qui en fait l'un des plus vieux australopithèques connus à ce jour. Et avec mes invités, nous allons revenir sur l'histoire de ce fossile pas comme les autres, et sur l'annonce de la découverte de son voisin Homo Naledi. Vos questions et vos messages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. La NASA l'affirme, il y a de l'eau sous forme liquide sur Mars. C'est une grande nouvelle, Axel Villard, et c'est bien sûr à la une de la science, on ne pouvait pas moins faire.
Hein. Bien sûr, alors il y en a très peu et dans des conditions bien particulières, mais assez en tout cas selon la NASA, pour espérer peut-être un jour y trouver la vie. On vous explique pourquoi dans un instant avec vos réactions sur Twitter.
Stéphanie Texier réalise cette émission qui était préparée par François Mercier et Margot Dullard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Un australopithèque de 3,6 millions d'années, c'est Littlefoot qui a été découvert en 1997 et qui reste le squelette d'hominidé primitif le plus complet retrouvé à ce jour. C'est le dossier de l'émission dans un instant. Avec mes invités en studio à Paris avec moi, Laurent Bruxelles, bonjour.
Bonjour.
Et José Braga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex des studios de Toulouse. Laurent Bruxelles, en quoi Littlefoot est un fossile exceptionnel?
Il est exceptionnel par le fait qu'il est quasiment complet, c'est-à-dire qu'on a quasi plus de 90% des os. Il faut voir que pour Lucie, il y a une quarantaine de pourcents. Mmh. Et puis surtout, le squelette est toujours en connexion, c'est-à-dire que les os sont les uns contre les autres. On a même la main encore fermée avec le pouce à l'intérieur. Et ça, ça relève de conditions de préservation qui sont exceptionnelles.
Ouais, il y a une petite bataille hein, entre Littlefoot et Lucie. Hein.
Oui, je pense que c'est plutôt une histoire qui cohabite et qui va se construire, qui va se compléter plus que s'affronter.
Ouais, José Braga, Littlefoot, Homo Naledi, qui a été lui révélé au monde il y a quelques jours, eh bien, ils ont été découverts à quelques centaines de distance l'un de l'autre. L'Afrique du Sud, c'est vraiment l'autre berceau de l'humanité, on pourrait dire, avec le rift africain.
Oui, je pense qu'on peut le dire. Pourquoi ? Parce que les fossiles sud-africains sont extrêmement nombreux par rapport à ceux de l'Afrique de l'Est, puisque à l'heure actuelle, on peut à peu près estimer que le pourcentage de fossiles trouvés en Afrique du Sud sur la proportion totale de fossiles africains est d'environ 80%. Mmh. Donc vous imaginez, hein, les proportions sont largement en faveur de l'Afrique du Sud pour l'instant. Littlefoot est beaucoup plus ancien que Naledi. Hein. On a affaire avec Littlefoot à un australopithèque. Naledi, oui. C'est quelque chose de beaucoup plus récent. Qui devrait avoir aux alentours de 2 millions d'années, si on en juge par sa morphologie.
Oui, on en reparlera évidemment avec vous dans un instant. C'est le dossier de la tête au carré pour explorer ensemble les origines humaines avec les messages des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission. Et aujourd'hui, 29 septembre 2015, tous les regards se portent sur la planète Mars.
Today, we're...
Aujourd'hui, notre compréhension de cette planète vit une révolution. Mars n'est pas cette planète sèche et aride que nous imaginions. Dans certaines circonstances, nous avons découvert de l'eau liquide sur Mars.
Quelle nouvelle dans la voix de Jim Green, le planétologue en chef de la NASA, à l'occasion d'une conférence de presse qui a été très suivie hier. Et donc cette annonce, la découverte d'eau liquide sur Mars, a un énorme effet d'annonce d'ailleurs pour une découverte qui n'est pas totalement nouvelle, mais qui suscite déjà toutes sortes d'espoirs et de fantasmes. Marion Massé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes et vous êtes également co-auteur justement de cette étude. Et puis avec nous, comme promis d'ailleurs hier, il revient, Philippe Hénarejos, en deuxième Bonjour. Semaine. Bonjour Philippe, toujours rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Marion Massé, vous êtes actuellement comme beaucoup de spécialistes à Nantes pour le Congrès européen de sciences planétaires où cette découverte du coup a été annoncée également hier. Est-ce que vous attendiez un tel déferlement médiatique autour de l'annonce d'eau liquide sur Mars? Oui quand même, j'imagine, non?
Ah, à ce point-là, non, pas tellement. Non, c'est vraiment pour nous, c'est un peu gigantesque. Enfin, on s'attendait quand même pas du tout à ça. Oui.
C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un petit peu l'ambiance pour le coup suite à l'annonce.
Bah, ce qui est bizarre, c'est que du coup, là, on est vraiment à un congrès scientifique qui se tient à Nantes. En même temps, on organise une exposition grand public pour la ville de Nantes. Mmh. Et donc, en même temps, là, tout d'un coup, on a des journalistes qui arrivent, qui viennent nous interviewer. Donc, c'est un peu bizarre. On s'attendait pas à ça non plus. Alors, c'est vrai que c'est la première détection, en fait, qui va dans le sens, en fait, de l'eau sur Mars. Après, on ne détecte pas directement l'eau, en fait. On C'est détecte ça. Ce qui reste après que l'eau soit évaporée.
Ce sont des moyens indirects, on va en parler dans un instant. Juste un petit mot, parce qu'il y a aussi beaucoup de scientifiques de la NASA qui sont à Nantes en ce moment. C'est vraiment la plaque mondiale de la planétologie en ce moment, la Cité des Ducs. Hein.
Bah là, en ce moment, oui, il y a des scientifiques qui sont là pour la conférence, mais il y a aussi le premier auteur de l'article qui est en fait en ce moment au laboratoire de planétologie de Nantes pour travailler avec nous et justement faire des expériences en laboratoire pour mieux comprendre ces écoulements.
Philippe Hénarejos, alors quelles sont ces conditions si particulières dans lesquelles l'eau s'écoulerait très doucement sur Mars ?
Alors, il s'agit d'observations faites par la sonde Mars Reconnaissance Observer qui montre qu'il y a des espèces de ravines, de petites ravines, appelons-les comme ça, qui se développent en quelques semaines. Donc, faut pas imaginer tout d'un coup un jaillissement.
C'est pas une cascade.
C'est pas une cascade et puis qui s'arrête et qui s'évaporerait. Ça prend quand même des semaines pour faire quelques centaines de mètres. Ça survient de manière saisonnière, plutôt quand il fait chaud. C'est pas loin de l'équateur martien, donc plutôt vers l'été martien, on va dire, de l'équateur, enfin de l'hémisphère nord ou sud, ça dépend de quel côté on se trouve de l'équateur. Et au moment où il fait donc assez chaud. Donc c'est saisonnier, c'est associé à de l'eau, apparemment. La détection indirecte est quand même assez sérieuse.
Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par détection indirecte,
eh bien,
justement,
ce que la sonde voit, grâce à un spectromètre qui est à bord, c'est la composition du sol à l'intérieur de ces ravines, qui sont très petites, hein, c'est quelques centaines de mètres et puis quelques mètres de large. Ouais. Et on voit des minéraux, des sels qui sont hydratés, donc c'est des choses qui se forment en présence d'eau et en présence d'une eau très, très salée, a priori. Ouais.
Marion Massé, donc vous confirmez, c'est une eau peu abondante et très salée, alors, qui est observée indirectement.
Oui, c'est ça. Donc en fait, l'idée du papier, c'est de dire que les sels qui sont présents à la surface vont absorber l'humidité de l'air et puis petit à petit vont se liquéfier. Donc c'est le principe du bac de sel qu'on met chez nous pour enlever l'humidité de la maison, en fait. Et ensuite, une fois que l'eau s'est écoulée, donc cette eau s'évapore. Et de la même manière que si on met de l'eau salée à évaporer, on a un dépôt de cristaux au fond. Et bien là, on va cristalliser donc des sels à l'endroit de ces écoulements. Et donc c'est les sels qui résultent de cette évaporation que l'on retrouve depuis l'orbite.
A-t-on une idée d'où vient l'eau ?
Alors c'est justement tout le problème. C'est-à-dire au début, on a imaginé que c'était de la glace en sous-sol, ce qui nous permet d'avoir une quantité d'eau un peu plus importante. Parce que, comme vous le disiez, donc, ces écoulements sont petits en largeur, mais ils peuvent quand même faire un kilomètre de long. Mmh. Donc ça demande quand même une quantité d'eau qui n'est pas forcément négligeable. Donc au début, on a plutôt imaginé de la glace en sous-sol qui permettait d'avoir une quantité d'eau plus importante. Mais pour ça, il faudrait une sorte de mécanisme de recharge de cette glace en sous-sol que l'on ne comprend pas tellement. Donc l'hypothèse maintenant qui est privilégiée, c'est cette absorption de l'eau atmosphérique. Mais de la même manière, on n'a pas non plus une quantité énorme d'eau atmosphérique, d'humidité dans l'atmosphère martienne. Donc ça pose encore quelques problèmes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne comprend toujours pas très bien sur ce mécanisme.
Donc Philippe, contrairement à ce que laissait dire la NASA, tous les mystères de cette eau liquide n'ont pas encore été totalement résolus. Hein.
Non, et puis malgré ce qu'on a entendu tout à l'heure, l'annonce de la conférence de presse, Mars est quand même quelque chose de très sec. Quand on parlait de température plus clémente, on parle de moins 20, mais à cette température-là, l'atmosphère martienne est très sèche. L'eau qui est dans l'atmosphère martienne, elle est vraiment... Bon, c'est pas des traces, mais c'est quand même un faible pourcentage. C'est essentiellement du dioxyde de carbone. Et voilà quoi.
Axel.
Oui, dès qu'on imagine l'eau sur Mars, on imagine aussi la vie. Marion Massé, est-ce que l'hypothèse pour vous est tenable ?
Elle est très hypothétique, on va dire. On ne peut pas dire que ce soit réellement impossible, puisque par exemple, ce principe d'absorption de l'eau par l'atmosphère, par les sels, on le trouve par exemple dans le désert d'Atacama. Et donc on forme comme ça des petits écoulements très temporaires, en fait, hein, d'eau salée, de saumures. Et dans ces saumures, on trouve de la vie microbienne, donc c'est des organismes qui vivent dans des conditions très extrêmes. Donc bon, on voit ça sur Terre certes, mais c'est pas les mêmes types de sels. Là, les sels qu'on voit, c'est des perchlorates, donc c'est quand même un milieu qui est vraiment pas favorable à la vie. C'est des solutions qui sont très 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 concentrées en sels. Mmh. Donc ça paraît quand même très improbable. Après, on les connaît pas bien, ces perchlorates, finalement, donc c'est difficile de dire quoi que ce soit.
Oui, Philippe.
Alors, vous savez, moi, cette histoire, ce n'est qu'un épisode de plus d'une histoire qui dure quand même depuis pas mal d'années. L'eau sur Mars, on en parle depuis les années, au milieu des années 70, depuis que la sonde Mariner 9 a vu des réseaux d'anciennes vallées fluviatiles. Et effectivement, quand on parle d'un mystère résolu, ou en tout cas qu'on aimerait résoudre, c'est savoir si on voit bien qu'il y a eu de l'eau sur Mars à une époque très lointaine où il y avait une pression atmosphérique, une température probablement suffisante pour qu'il y ait de l'eau liquide comme on la connaît sur Terre, hein, peut-être pas en même quantité mais à peu près pareil. Et la question qu'on se pose, c'est où est passée cette eau? Est-ce qu'une partie de cette eau est dans le sous-sol où les conditions sont peut-être propices à ce qu'il y ait une quantité qui reste un peu liquide, ou ça serait des havres de pour la vie si éventuellement elle a un jour éclos sur Mars dans ce passé plus clément que je vous décris. Donc on a vu dans les années 90, on voyait des ravines beaucoup plus importantes qu'on appelait les gullies à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si ces gullies ont été faites par de l'eau ou par des écoulements de CO2 qui est très abondant sur Mars dans une atmosphère très sèche. Là, ces ravines-là dont on parle aujourd'hui sont plus petites, sont actuelles puisqu'on les voit évoluer d'une orbite sur l'autre pratiquement de la sonde. Et c'est qu'un épisode de plus. Et c'est quand même la première preuve qu'il y a de l'eau qui peut, épisodiquement, être un peu liquide sur Mars.
Oh, mais c'est pas rien, quand même.
C'est pas rien. C'est quand même, on a progressé dans cette quête qui...
Vous le reconnaissez.
Mais bien sûr, c'est un beau résultat scientifique parce que, pour expliquer ces ravines qu'on a découvertes qu'en 2011, il y avait plusieurs hypothèses, dont des hypothèses sans eau, d'ailleurs. Et, dans les hypothèses avec de l'eau, on devait trouver ces fameux sels hydratés. Et là, la sonde les a trouvés, donc c'est une belle confirmation quand même.
Allez, dernière question.
Oui, après tout ce qu'on s'est dit, est-ce que l'énorme effort de communication de la NASA vous semble justifié, Marion Massé?
C'est sans doute un peu trop, c'est-à-dire que nous, on ne s'attendait pas à ça. Après, nous, si on ne s'attendait pas à ça, c'est aussi parce que c'est un travail qui dure depuis très longtemps, c'est des hypothèses qu'on réfléchit depuis très longtemps, donc on a moins cet effet de surprise, on va dire, quelque part. Après, l'annonce de la NASA, oui, c'est un peu trop énorme, et puis... surtout, je pense qu'il y a des publications scientifiques très intéressantes qui sortent tous les jours et on ne comprend pas toujours très bien pourquoi une découverte est beaucoup plus mise en avant qu'une autre. Après, les résultats sont très intéressants, c'est sûr.
Philippe, pour terminer très vite.
Oui, c'est vrai que la NASA bat un peu des tambours quand même. Alors certes, son communiqué, je l'ai ressorti, là, c'est mystère martien résolu pour annoncer l'annonce. Et puis quand même, découverte scientifique majeure. Donc quand la NASA, qui est connue de tout le monde, dit découverte scientifique majeure avec Mars en titre, tout le monde
court. On garde à nous.
Voilà, c'est
on
normal.
On était là, fébrile depuis dimanche.
Exactement. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Et c'est vrai que ces recherches sur Mars avec l'eau, c'est quand même savoir si la vie peut éclore ailleurs dans des conditions qui étaient proches ou identiques à celles de la Terre. Et donc, on n'a toujours pas la réponse, mais l'aventure continue.
Marion Massé, merci beaucoup. On peut signaler quand même à nouveau l'expo à Nantes, Voyage planétaire, Christian, en ce moment, pendant votre congrès de planétologie à la Cité des sciences de Nantes. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir interrompu. Et qui est gratuite, absolument. J'ai raison de le préciser. Merci beaucoup à vous. Je trouve qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui, Axel, parce qu'entre les origines humaines avec Laurent Bruxelles et les origines de la vie
ailleurs, dans avec le système Mars,
Le menu est quand même excellent, Laurent Bruxelles. Ça vous intéresse, vous, du coup, qui travaillez sur les origines humaines?
Ah oui, complètement.
Ce qui se passe sur la planète Mars.
On peut se poser aussi les questions de l'origine de la vie sur Terre. Donc
absolument.
Faire ces parallèles, c'est extrêmement intéressant.
Oui. Merci, Philippe Hénarejos.
Merci.
Et on se retrouvera la semaine prochaine. On se donne rendez-vous à l'Observatoire de Haute-Provence, parce que là aussi, on a un très, très beau rendez-vous à fêter ensemble.
Et oui, d'autres mondes, d'autres vies, peut-être.
Exactement. Avec le 20e anniversaire de la découverte de la première exoplanète. Et nous serons avec les découvreurs, Michel Mayor et Queloz.
Dans la coupole du télescope qui a permis la découverte.
Il y a 20 ans tout juste, ce sera mardi 6 octobre prochain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Shell qui abandonne ses forages en Alaska après une exploration de terrains jugés décevantes, le géant pétrolier a décidé de se retirer du bassin pétrolifère. Une bonne nouvelle pour les écologistes, le puits qui avait été foré à plus de 2000 mètres dans la mer avait permis la découverte de gaz et de pétrole, mais en quantité trop insuffisante. Dans l'espoir d'y faire de grandes découvertes, Shell y avait quand même investi 7 milliards de dollars. Contrôler le curseur d'un ordinateur par la pensée, c'est ce qu'a pu réaliser des patients paralysés grâce à des électrodes posées dans le cortex moteur de leur cerveau. Deux personnes, donc souffrant de la maladie de Charcot, ont réussi à déplacer un curseur d'ordinateur vers une cible. Une expérience réalisée par un groupe de chercheurs chercheur universitaire américain qui pourrait permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes paralysées. Et puis pour terminer ce chiffre, 3 malades du cancer sur 4 n'ont pas accès aux soins. Une étude britannique montre que chaque année, des millions de personnes dans le monde décèdent de cancers curables parce qu'elles n'ont pas reçu les chirurgies ou radiothérapies nécessaires. Il est d'ailleurs estimé que seulement 40 à 60% des 12 millions de malades du cancer accèdent à la radiothérapie, ce traitement indispensable pour les cancers du sein, du poumon ou de la prostate. Allez, les origines humaines dans un instant avec Little Foot. Isia, autour de toi sur France Inter.
Les grottes de Sterkfontein sont un des sites préhistoriques les plus prolifiques de la planète. En 1997, Ron Clark a découvert à 40 mètres au fond de cette grotte un des fossiles qui est venu bouleverser les théories établies. Le squelette intact d'un de nos lointains ancêtres que le temps a transformé en pierre.
Il s'agit d'un individu, d'un australopithèque datant d'environ 3,3 millions d'années, qui vivait dans un milieu forestier. Pour une raison ou pour une autre, il s'est trop approché d'une des crevasses qui communique avec les profondeurs de cette grotte. Il est tombé et s'est retrouvé piégé à l'intérieur. Il a peut-être survécu ici assez longtemps avant de mourir de faim.
Voilà, et ce fossile, c'est Little Foot. Et les informations ont changé depuis que ce documentaire, justement, a été tourné, puisque récemment, Little Foot, et c'est l'objet de notre émission, a été daté à 3,6 millions d'années par des chercheurs français. C'est le dossier de la Tête au Carré cet après-midi, justement, avec mes invités. Laurent Bruxelles, vous êtes géomorphologue et géoarchéologue. Qu'est-ce qui se cache derrière vos deux disciplines, exactement?
Donc, un géomorphologue, c'est quelqu'un qui étudie l'histoire des paysages, leur évolution, leur dynamique, sur la base de la géologie, mais du climat, etc. Mm-hmm. Et un géoarchéologue, géologue, ben, met ses compétences-là au service des archéologues.
Ouais. Et vous êtes chercheur à l'INRAP, rattaché à l'équipe du CNRS 13, qui est au sein de l'université de Johannesburg. Et puis José Braga, donc vous êtes en duplex de Toulouse, vous êtes paléo-anthropologue et professeur à l'université Paul Sabatier. Les auditeurs nous rejoignent donc déjà avec les messages et les questions sur franceinter.fr. Little Foot, donc après quelques années d'errance, a donc un âge plus précis. Il a eu plusieurs âges en réalité, hein, cet Australopithèque. Le dernier en date, 3,67 millions d'années pour être précis. Donner un âge à un fossile, c'est extrêmement compliqué, Laurent Bruxelles.
Oui, c'est très compliqué, en tout cas pour des fossiles qui ont cette ancienneté, puisqu'on ne peut pas dater directement les ossements, ou alors il y a des marges d'erreur assez importantes, et puis en même temps on ne peut pas se permettre de détruire un os ou une dent pour aller faire une date.
Même sur des échantillons microscopiques ?
Ben, là, on n'est peut-être pas assez au point encore pour pouvoir faire ça sans abîmer ou sans que ça se voit. Donc l'idée maintenant, du coup, autour de ces fossiles, c'est de dater plutôt les sédiments. Donc le premier travail, c'est de montrer que les sédiments dans lesquels les fossiles est pris ont la même histoire.
Donc c'est vraiment l'environnement, hein, l'environnement qui est autour de ce fossile.
C'est l'environnement. Et c'est ça qui avait été fait, donc les différents essais de datation qui avaient été réalisés autour de ce fossile, justement, avaient daté un coup des cailloutis, un coup des dépôts de calcite, mais en fait, lequel des deux avait été vraiment lié à Littlefoot et lequel avait la même histoire.
Oui, alors c'est ça José Braga, parce qu'en fait, cette datation, c'est une véritable aventure avec plusieurs chiffres qui, au fil du temps, ont été, on va pas dire précisés ou affinés, parce qu'il y a eu beaucoup d'écarts entre 3 millions d'années, puis 2 millions d'années, 4 millions d'années et maintenant 3,6.
Oui, effectivement. Et lorsque la date de 2 millions d'années avait été proposée pour Littlefoot, les spécialistes étaient assez surpris parce que 2 millions d'années, normalement, c'est l'âge d'apparition de notre genre. Ou en tout cas, à 2 millions d'années, notre genre est déjà bien établi en Afrique et va bientôt coloniser l'Ancien Monde.
Comment est-ce qu'on précise aussi exactement l'âge d'un fossile, justement, de Mandeviron, puisque là, vous êtes à 3,67 avec une petite marge d'erreur, quand même, Laurent Bruxelles.
Oui, c'est ça, la précision. Bon, il y a une marge d'erreur de 150 000 ans, grosso modo, plus ou moins 150 000 ans, ce qui est malgré tout assez précis, mais c'est aussi parce que l'équipe américaine avec laquelle on a fait la datation a un matériel maintenant qui est un peu plus performant, beaucoup plus performant. C'est même une nouvelle technique qui a été adaptée pour la première fois pour la datation de Littlefoot et qui nous permet enfin d'avoir un âge très, très précis.
Quelle est cette technique alors en l'occurrence?
Alors c'est ce qu'on appelle les cosmogéniques nucléides. Donc vous savez, lorsqu'on est en surface, on est bombardé de rayonnements cosmiques. Ces rayonnements cosmiques, que ce soit sur nous, les cailloux, la végétation, produisent des isotopes. Et notamment dans les cailloux, dans les quartz, eh bien on a des isotopes de l'aluminium et du béryllium. Et puis lorsque ces cailloux tombent sous terre, c'est-à-dire lorsqu'ils vont être protégés par la roche, eh bien peu à peu, ces isotopes vont décroître. Et on connaît très bien le rythme de décroissance, notamment de l'aluminium et du béryllium. Donc il suffit de prendre ces quartz, de mesurer les deux. Alors là, on a pris 11, hein, 11 échantillons, on a pris des cailloux, des graviers, des sables, toute la fraction, vous voyez, pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui était piégé. Et sur les 11, il y en a deux qui étaient, des blocs qui étaient déjà dans la grotte, qui n'avaient rien à voir là. Et 9 ont donné cet âge, et donc ont permis d'avoir à la fois la confirmation qu'on datait bien le même sédiment, qui avait la même histoire, et en plus avoir une date relativement fine.
José Braga, cet âge, il est définitif ou il pourrait encore être amené à être précisé, modifié?
Un âge de cette nature peut toujours être légèrement précisé, puisque par exemple, lorsqu'on date des Néandertaliens en Europe, on a des précisions qui sont diaboliques, hein, elles sont de quelques centaines d'années. On n'en est pas encore là pour l'Afrique du Sud, on a une marge d'erreur, comme Laurent l'a souligné, de 150 000 ans, donc c'est beaucoup plus important.
Oui, la première fois qu'on a voulu donner un âge à Littlefoot, c'était en 1997, hein, c'est ça? C'était d'autres techniques encore à l'époque qui étaient utilisées?
C'était d'ailleurs pas une méthode de datation absolue, ça donne pas un âge, c'était juste, on mesure l'ancienne orientation du champ magnétique terrestre. Voilà, plus ou moins, vous savez que les pôles s'inversent. Et donc on a vu une inversion, et compte tenu de l'ancienneté du fossile, et puis des quelques restes qui sont associés à Littlefoot, eh bien on a 17 inversions, doit être celle de 3,3 millions d'années.
Ouais.
C'était juste comme ça. Mais effectivement, si on change la date, on peut trouver une autre inversion plus haut, plus bas.
Ce grand écart entre le maximum 4 millions d'années et puis le plus jeune âge donné 2 millions d'années, comment est-ce que les scientifiques ont vécu justement cette différence très importante quand même?
Oui, ben ça a été un petit peu compliqué parce que du coup, il fallait adapter les modèles. Et il y a même un moment où on disait, bien l'Afrique du Sud, c'est jeune finalement, c'est trop jeune. On a des fossiles, voilà, d'Australopithèques qui n'ont que 2 millions d'années. C'est pas dans la course. Là, ce qui s'est passé pour la date à 2 millions, c'est que ce qui avait été daté était finalement quelque chose qui était intrusif dans les sédiments. Donc Littlefoot est tombé avec des tas de cailloux, etc. Et puis ensuite, dans un second temps, des planchers de calcite, vous voyez, des stalactites, des stalagmites sont venus se développer, mais plus d'1 million d'années après. Or, ça, on sait bien le dater. Donc, lorsque les géologues étaient tombés là-dessus, ils ont dit « Ah, mais ça, on sait le dater, on va le faire tout de suite. » Ils ont trouvé 2 millions d'années, ils l'ont publié comme ça. Oui. Et ça, c'est ce qu'on avait publié en 2014, où on avait dit « Ça n'a rien à voir avec le fossile. »
Exactement, parce que José Braga, à 2 millions d'années, il y a des choses du point de vue anatomique qui ne collent pas, en fait, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui.
Exactement. En fait, tout se passe, en ce qui concerne l'origine de l'homme, juste après 3 millions d'années. Nous vivons une période à ce moment-là qui est très mystérieuse. On sait que l'homme va apparaître à ce moment-là. Avant, ce sont les Australopithèques, après, ce sont les humains. Or, bien sûr, dater Littlefoot de 2 millions d'années, ça revient à le placer comme contemporain des premiers humains, ce qui est assez surprenant, vu son caractère très archaïque, si vous voulez.
Oui, justement, Jacques demande, est-ce que Littlefoot, José Braga, représente une espèce à part entière ou une sous-espèce dans l'histoire évolutive? Alors, ce serait bien pour nous de dresser un petit peu sa carte d'identité, parce qu'on a affaire à un Australopithèque, là, déjà, hein.
Oui, c'est un point très important. Alors, avant 3 millions d'années, nous avons plusieurs lignées d'Australopithèques qui se côtoient sur le continent africain. Et Littlefoot représente une variété très particulière d'Australopithèques sud-africaines qui présente des caractères assez robustes, c'est le terme qui est utilisé par les anatomistes, et qui annonce certainement ce que l'on va appeler ensuite les paranthropes, qui sont des cousins très très proches de l'homme. Donc Littlefoot pourrait être nous dire par ses caractères en fait qu'il est l'ancêtre à la fois des humains et des paranthropes, ces australopithèques dits robustes que l'on trouve après 3 millions d'années.
Oui, à quoi ils ressemblent justement ces paranthropes alors? Quel est un petit peu leur portrait robot là aussi?
Alors les paranthropes sont des créatures assez mystérieuses, elles apparaissent en même temps que l'homme un peu après 3 millions d'années et vont disparaître il y a 1 million d'années. Donc elles ont côtoyé l'homme pendant presque 2 millions d'années et la grande différence entre les paranthropes et nous-mêmes, mis à part de grandes ressemblances également, eh bien ce sont des caractères très robustes de leur mâchoire avec de très grosses dents et une capacité à broyer des aliments végétaux très très coriaces.
Oui. Mais c'est une famille d'Australopithèques aussi le paranthrope ou pas?
Alors ce ne sont pas des Australopithèques au sens strict, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un autre genre que Lucy, Australopithecus, ou Littlefoot, Australopithecus. Ce sont les représentants d'un genre différent que l'on appelle Paranthropus, mais ils sont les descendants des Australopithèques au même titre que les humains.
Oui. Est-ce qu'on a beaucoup de fossiles de ces Paranthropes, justement, José Braga?
On en a beaucoup aux alentours de 2 millions d'années. Et plus on se rapproche de cette période mystérieuse que j'évoquais tout à l'heure, 3 millions d'années, on en a de moins en moins. Oui. Donc à l'heure actuelle, l'intérêt c'est de chercher les ancêtres de ces paranthropes, puisque en les trouvant, on trouvera également les ancêtres des premiers humains.
Oui. Pourquoi est-ce qu'ils sont moins populaires au fond que les Australopithèques dont on connaît bien le nom? Il n'y a pas de fossiles majeurs là, qui étaient mis au jour?
Alors le grand problème avec les paranthropes, c'est qu'on les a trouvés pour la première fois en Afrique du Sud dans des sites mal datés. Or, la datation, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est un élément clé pour mieux comprendre l'évolution de l'homme. Et donc, on a beaucoup de fossiles de paranthropes aux alentours de 2 millions d'années pour des périodes bien datées en Afrique de l'Est. Mmh. En Afrique du Sud, on commence à en trouver de très intéressants. Et il faut maintenant attendre les dates pour pouvoir confirmer les choses.
Allez, on poursuit le voyage autour de nos origines humaines avec donc la famille des Australopithèques, le genre Homo aussi avec Naledi. Ça, c'est vraiment une annonce importante aussi effectuée le 10 septembre dernier. Avec nos invités et toutes vos questions, franceinter.fr. Et c'est bien sûr La Tête au Carré.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso. Et aller prendre un bain sur une plage à Capri.
Voyage en Italie, un petit souvenir des années 90 avec Lily Cube.
La tête au carré sur France Inter.
Les origines humaines, nous sommes dans la famille des Australopithèques avec Little Foot, un habitant de l'Afrique du Sud. Et puis nous parlerons aussi d'Homo naledi, l'une des toutes dernières découvertes du genre Homo. C'est ce qu'on nous propose en tout cas en ce moment. Avec mes invités, Laurent Bruxelles, géomorphologue, et José Braga, paléo-anthropologue. Beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Avant cela, j'aimerais qu'on parte juste sur le rift africain pour justement parler de ce berceau de l'humanité.
Depuis 30 ans, la vallée du Rift à l'est de l'Afrique est considéré comme le berceau de l'humanité, car c'est là qu'a été trouvé le plus grand nombre de fossiles d'Australopithèques. En 1974, Donald Johansson et Yves Coppens y découvrent Lucie. Elle est à l'époque notre plus vieil ancêtre redressé. List Size Story, ou hypothèse de la savane, devient dès lors la théorie dominante. Elle affirme que l'apparition de la faille du Grand Rift africain a séparé les grands singes en deux groupes. L'un est resté à l'ouest, dans les forêts. Mais à l'est, l'autre groupe a dû s'adapter à un nouvel environnement, la savane. Pour survivre et repérer leurs prédateurs, ces singes ont dû se redresser au-dessus des hautes herbes, donnant ainsi naissance aux premiers Australopithèques.
Voilà, un petit cours de géographie tiens, pour revisiter l'Afrique avec vous, Laurent Bruxelles. Parce que la partie qui nous intéresse avec Little Foot, c'est l'Afrique du Sud, dont on dit que c'est le second berceau de l'humanité, comme l'expliquait José Borja tout à l'heure. Et le premier étant la vallée du Rift, c'est ça hein.
Oui, en fait, je pense que maintenant, il y a un consensus qui commence un peu à apparaître. C'est plutôt des morceaux du berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité, et ce sont les conditions géologiques qui permettent de piéger, à un moment donné, cette information. Mmh. Donc c'est le Grand Rift à l'est de l'Afrique, c'est les grottes en Afrique australe en général, et donc on a là des informations piégées à un bon moment, donc c'est la géologie. Et ouais. On n'a que des petits morceaux en fait.
Oui, c'est un bassin d'effondrement en fait
le Grand Rift, c'est un écartement de plaques tectoniques, voilà, ouais. Effectivement, avec un remplissage de la cuve fluviatile.
Et qui a permis de solidifier, enfin de fossiliser en tout cas beaucoup de restes d'Australopithèques par exemple. Il y a beaucoup de questions de Viron par exemple qui vous demandent si les Australopithèques vivaient plutôt dans des zones boisées. Qu'est-ce qu'on sait de leur environnement, Laurent Bruxelles?
Si on considère que déjà ils vivaient dans une très grande partie de l'Afrique, on imagine qu'il y avait tous les climats et tous les biotopes possibles. Mmh. En tout cas, en ce qui concerne les Australopithèques que l'on connaît, on sait qu'ils ont au niveau de la main, par exemple, des aptitudes à l'appréhension, à monter dans les branches. Donc, il y a un environnement qui est quand même relativement boisé.
Ouais. José Braga, une question de Christophe. Est-ce que le volume crânien de Little Foot était similaire à celui de Lucie, dont l'âge diffère donc de
500 000 ans,
voilà, c'est ça.
Alors, Little Foot avait certainement un cerveau à peu près de la taille de celui de Lucie. Alors, Lucie, nous n'avons pas malheureusement son crâne, mais en tout cas les représentants de l'espèce de Lucie, oui, certainement.
Et sur le crâne, justement, est-ce que le crâne des Australopithèques était plus proche de celui des chimpanzés ou pas?
Alors après, sur le crâne, on peut dire que Lucie, comme Little Foot, avait une dentition, par exemple, très différente de celle des chimpanzés, et son cerveau avait commencé déjà à se réorganiser. C'est-à-dire que les différentes proportions des zones occipitales, frontales et différentes régions du cerveau étaient déjà différentes, plus humaines chez les Australopithèques que chez les chimpanzés.
Qu'est-ce qu'on sait de leur mode d'alimentation, Laurent Bruxelles? Est-ce que Little Foot était végétarien, demande Jacques? Et puis Christophe, est-ce que nous étions déjà des chasseurs à l'époque?
Il y a eu des études là-dessus qui montrent qu'en tout cas les Australopithèques mangeaient un petit peu de tout. Mmh. Le paranthrope était peut-être un peu plus herbivore. Mmh. Voilà. Mais ils sont capables, même si on n'a pas d'outils, évidemment, on taille pas d'outils encore à l'époque de Little Foot. Mais quand on prend l'exemple des chimpanzés, ils sont capables de s'organiser pour chasser.
Ouais. À quel moment vous êtes arrivé sur place, alors Laurent Bruxelles, vous en Afrique du Sud, pour vous occuper du cas de Little Foot?
Mais c'est en 2007 que Ron Clark me contacte pour me demander de venir l'aider à résoudre le problème Little Foot, dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Ouais. Mais effectivement, j'ai compris tout de suite que quand même c'était un sujet qui était relativement intéressant.
Dans quel lieu se trouve-t-il justement Little Foot? Il y a cette grotte tout à fait particulière dans laquelle donc vous êtes allé.
Oui, c'est ça. Donc on descend le long d'un grand escalier en bois. C'est une ancienne mine. Hein. Donc les mineurs mineurs ont exploité cette grotte, ils l'ont vidée, donc il y a eu des dynamitages successifs.
C'est comme ça que Littlefoot a été découvert donc en 1925 au départ, hein, c'est ça?
Alors Littlefoot, il est découvert en 94 dans des boîtes au début. Hein. Ce sont des boîtes qui viennent justement de ces dynamitages successifs et les mineurs avaient laissé des tas en surface et les paléanthropologues ensuite sortent trier les ossements, si vous voulez. Donc on savait que ça venait de là-bas au fond. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un dynamitage de moins et on n'aurait même pas trouvé les pieds dans les boîtes, un de plus, et on aurait perdu Littlefoot et toute l'information qu'il nous apporte.
Ouais. Donc il avait été mal interprété en fait au départ, il y avait juste ces petits sacs.
Oui, des sacs, voilà, c'était mélangé à de la faune, et c'est Ron Clark qui tout de suite s'aperçoit que là, il a un morceau de pied, et puis en 97, en voyant d'autres sacs, il retrouve d'autres ossements, et tout de suite, ça lui fait penser à ce qu'il a vu en 94.
Ouais.
Donc il va rechercher tout ça, il le met côte à côte, et il s'aperçoit qu'il a deux pieds, et puis la partie distale, donc la partie basse des tibias, et il se dit, si j'ai les deux pieds, c'est que le fossile est là-bas au fond de la grotte.
Ouais. Cette grotte, donc, elle est assez particulière.
Alors c'est une grande grotte. Hein. Il faut imaginer que la grotte de Sterkfontein, c'est plus de 5 à 6 km de galerie. C'est un véritable labyrinthe en 3D, on peut s'y perdre. Avec une vingtaine d'entrées, voilà, des parties qui sont noyées, etc. Mmh. Et voilà. Et dans la partie haute, eh bien, on a cette espèce de talus, donc un espèce de sablier, vous imaginez, qui s'est formé au pied d'une entrée, au pied d'un gouffre. Voilà, on a ce sablier dans lequel, eh bien, on a des vestiges, dont Littlefoot, qui est tombé lui aussi par l'entrée.
Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'il faisait là, José Braga, Littlefoot? Il a subi une petite chute?
Oui, c'est ça. Littlefoot est tombé dans un trou. Il est tombé de quelques dizaines de mètres et puis il n'a pas pu ressortir de cette grotte. C'est souvent le cas, d'ailleurs, pour tous les australopithèques qu'on retrouve dans ces grottes sud-africaines. Mmh. Après, lorsque l'homme va maîtriser son environnement et qu'il va pouvoir éventuellement accéder différemment à ces grottes, eh bien, il va peut-être y rester pour se protéger, mais pouvoir en ressortir également.
Oui. Quel est son sexe à Littlefoot, alors? Est-ce qu'on le connaît ou pas?
Alors, Littlefoot, Ron Clark pense qu'il s'agit d'un sujet féminin, donc d'une femme. Parce que quand on compare le crâne de Littlefoot à d'autres crânes trouvés à Sterkfontein, eh bien, on constate que Littlefoot a des caractères beaucoup plus atténués par rapport notamment un crâne complet, remarquable, qui a été trouvé il y a quelques années à Sterkfontein également.
Ouais. Petit pied, pourquoi Laurent Bruxelles? Alors, c'est Larry qui nous dit ceci, le choix de ce nom, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il ne fait pas trop dans le sensationnalisme par son analogie avec Bigfoot?
Non, même si effectivement c'est associé à ça, c'est-à-dire que lorsque Ron Clark découvre les premiers ossements, ce sont les os d'un pied et ce sont les os d'un petit pied. Et c'est une époque où on parle de Bigfoot justement. Et c'est Philippe Tobias, un autre paléanthropologue qui travaille avec Ron Clark et qui lance l'idée de Littlefoot et qui va rester.
Ouais. Est-ce qu'il faudrait changer de nom, selon vous, José Braga? Alors, si justement on confirme que Littlefoot est de sexe féminin.
Écoutez, s'il est de sexe féminin, ça va très bien. On peut l'appeler Petit Pied. Mais il a un très joli pied, en fait. On peut l'appeler Joli Pied aussi, parce qu'il a, il a un joli orteil divergent qui nous dit que Petit Pied grimpait aux arbres.
Ouais.
Et il a un talon encore assez primitif qui nous explique que lorsque Petit Pied posait son pied au sol, eh bien, il ne le posait pas par le talon, comme on le fait lorsque nous marchons, nous, humains, mais il le faisait par l'ensemble du plat de son pied. Donc il n'était pas tout à fait bipède comme nous le sommes, nous.
Alors c'est ça, c'est une question de Marie, justement, sur la bipédie de Littlefoot. Vous pouvez préciser là-dessus, José Braga?
Oui, Petit Pied était capable, par exemple, avec son gros orteil, de faire des choses que je ne suis totalement incapable de faire, c'est-à-dire d'attraper des objets avec son joli petit pied.
Bon, certains peuvent le faire, mais c'est vrai que c'est plutôt difficile et il faut un bon apprentissage pour ça, Laurent Bruxelles.
Oui, ben on va s'entraîner. Mais
sur la bipédie de Littlefoot.
Non, mais effectivement, là, José, je crois, a tout dit là-dessus. Et bon, l'intérêt, c'est qu'on a enfin des pieds et des jambes en connexion et on peut faire parler ce fossile.
Alors, maintenant, c'est ça qui est très intéressant. Ce sont les connexions, justement, entre les ossements et les articulations, parce que ça, c'est extrêmement précieux.
Ben, c'est précieux et quand on voit le fossile maintenant déployé, lorsque Ron Clark nous le présente sur la table, on le voit, il est extrêmement massif, avec des épaules très très larges, voyez, des choses comme ça, puis des jambes plutôt petites. Et là, on se dit, si on avait trouvé ce squelette par petits bouts, est-ce qu'on aurait pensé que c'est le même individu? Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'on voit un peu cette mosaïque de caractère qui, cette fois-ci, nous dit, oui, tout ça appartient au même individu.
Oui, Laurent Braga, effectivement, sur les jonctions anatomiques qui sont encore visibles, ça, dans le domaine des fossiles, c'est vraiment un cadeau très précieux pour vous, hein?
Oui, absolument. Avec Laurent, nous étions il y a quelques jours encore devant Littlefoot. Et Ron nous a gentiment montré les épaules de Petit Pied et tout son membre supérieur, tout son bras. Et on constate que Petit Pied a un bras extraordinairement humain, par exemple. Ouais. Une épaule encore un peu chimpanzène. Et un petit pied très, très primitif encore.
Oui. Donc Littlefoot est où là en ce moment exactement quand vous dites que vous étiez près de Littlefoot?
À Sterrefontein. Mmh. Ron est toujours en train d'extraire encore quelques éléments de Littlefoot pour pouvoir enlever toute la gang qui encore protège et masque certains détails anatomiques.
Oui. C'est très très long cette extraction. Alors ça a demandé des dizaines d'années, plus de 13 ans je crois, hein, Laurent Bruxelles.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça se fait à la fraise de dentiste. Il faut imaginer que c'est dur comme du béton. Donc ouais. Il était vraiment dans cette gang. Et puis en même temps, il ne faut pas toucher l'os parce que l'os peut nous apporter beaucoup d'informations. Est-ce qu'on a des traces de les fractures, les choses comme ça. Et donc il faut être extrêmement minutieux. Et il y a une ou deux personnes uniquement qui sont capables de le faire là-bas, qui travaillent pour Ron Clark et qui petit à petit dégagent chaque os.
Ouais. Donc pour l'instant, Littlefoot n'est pas sorti encore de sa cave.
Alors il est sorti de la grotte, mais il y a encore certaines parties, notamment les côtes, etc., qui sont dans des blocs dont on est petit à petit en train d'extraire chaque os.
Oui. Quand est-ce qu'on aura le fossile enfin définitif?
Alors si tout va bien, Ron Clark devrait le publier d'ici la fin de l'année, même si peut-être toutes les côtes ne seront pas toutes dégagées.
Donc on attend une belle photo là aussi, hein, j'imagine.
Il devrait y avoir une très très belle photo, puisqu'effectivement, lorsqu'on l'a vu avec José il y a quelques jours, il y avait des étudiants et il y en a qui avaient du mal à cacher leur émotion de voir un tel fossile.
Ouais. José Braga, vous confirmez?
Oui, absolument. Vous allez être gâté quand vous verrez la photo de Petit Pied.
Ouais, c'est prévu pour quand alors exactement qu'on se mette un petit peu sur les starting blocks?
Oui, ça devrait apparaître dans les 12 prochains mois, ouais, je pense.
Parce que la photo de Lucie a marqué les esprits, hein, évidemment, et la photo de Littlefoot certainement aussi prochainement.
Il y a toutes les chances.
Allez, on va parler d'Homo naledi dans un instant avec vous, parce que là aussi, c'est une annonce très très importante dans le domaine des origines de l'homme. Et vous étiez à quelques mètres, et vous connaissez bien l'endroit où était découvert Homo naledi. On en parle avec vous dans un instant.
I guess for now you've got the last laugh. I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't. Talking about a hate.
Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré. Alessia Cara à l'instant.
C'est la découverte de fossiles la plus importante et la plus significative de nos cousins éloignés jamais faite en Afrique. Plus de 1500 restes appartenant à 15 individus, des bébés, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes et des vieux. Vraiment, l'espèce est remarquable. C'est une combinaison de ce qu'on a trouvé jusque-là et qu'on n'a jamais vu. Mais le plus surprenant, c'est ce qu'ils faisaient dans cette grotte. Mes collègues du monde entier et moi-même avons étudié ces fossiles depuis plus de 2 ans. On a étudié le contexte et on est arrivé à la conclusion que cette espèce dominée déposait délibérément ses morts à cet endroit-là. Ils faisaient une descente dangereuse dans cette cavité pour y jeter leurs morts dans ce lieu inaccessible à d'autres. C'est une chose qu'on croyait réservée à nous, les hommes, et qui faisait notre différence, eh bien, plus maintenant.
Voilà, c'était de la conférence de presse donnée il y a quelques jours à Johannesburg. Le paléontologue Lee Berger, que vous connaissez bien, Laurent Bruxelles et José Braga, et vous avez eu la chance, puisqu'il parlait de Homo naledi, hein, donc ce fossile qui a fait la une de l'actualité. On pourrait dire ce fossile et sa famille, Laurent Bruxelles. Hein.
Oui, c'est ça.
Il y a tellement d'ossements.
Et il y a 1500 ossements, 15 ouais. individus, tous âges confondus, c'est ça qui est fantastique. Là, on ouais. a un échantillon incroyable.
José Braga, racontez-nous, parce qu'avec Laurent Bruxelles, vous avez eu la chance de voir Homo naledi, je crois juste après l'annonce, justement, à la presse du monde entier. Qu'est-ce que vous avez vu et est-ce que vous avez été saisi, justement, par la richesse de cette découverte?
Ah oui, je suis stupéfait par le nombre de vestiges oui. disponibles qui nous permet de dresser un portrait robot vraiment très précis de ce groupe. Mm-hmm. Et en fait, ce qui m'a surpris le plus, c'est que lorsqu'on observe ces fossiles, eh bien, on a d'autres images qui nous viennent à l'esprit et ces autres images sont ceux de fossiles très proche de Naledi, que l'on trouve à la fois en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, au Kenya plus exactement.
Alors là, on est dans le genre Homo, mais c'est assez discuté, puisque Yves Coppens, à cette même place, nous disait que pour lui, Homo Naledi était en réalité un australopithèque, tout simplement, de par la taille de son crâne.
Oui, alors en fait, nous savons depuis quelque temps en fait, que les plus anciens humains que l'on trouve non seulement en Afrique, mais également en dehors de l'Afrique, je pense à un site géorgien qui a livré 5 crânes récemment, mmh. eh bien, ces premiers humains avaient un cerveau de la taille de celui des australopithèques. Donc la taille du cerveau n'est plus forcément un caractère qui fait notre humanité. Ce sont d'autres caractères qui peuvent nous servir à dresser un portrait robot des différences que nous avons avec les australopithèques, parmi lesquels, par exemple, le temps de croissance, le pied, justement, ou d'autres caractères du crâne et de l'infracrâne.
Donc vous penchez vraiment pour le genre Homo, José Braga, avec Naledi?
Ah, totalement, oui, oui.
Oui. Ça fait pas l'ombre d'un doute pour vous?
Pour moi, il n'y a aucun doute, oui, effectivement.
Bon. Laurent Bruxelles?
Oui, alors moi, c'est pas ma spécialité.
Non,
du
mais
tout,
vous avez l'environnement,
contre,
en tout
voilà.
cas. Hein.
Par contre, l'environnement est intéressant. Alors, d'abord, une telle richesse qui est découverte comme ça dans une grotte, ça montre tout le potentiel de cette région. Vous imaginez, il y avait 3000 vestiges de millénaires anciens connus ouais. en Afrique. On vient d'en rajouter 1500 d'un coup. Ouais. Donc là, il y a un tiers uniquement était dans l'Afrique du Sud, on passe à la moitié. Donc, il y a 700 grottes dans cette région. Et sachant qu'elles sont pas toutes connues encore, donc ça montre, voilà, il suffit d'aller chercher, d'aller fouiller, ouais. et il va en sortir encore énormément.
Vous la connaissez cette grotte où a été découvert justement Homo naledi? Racontez-nous comment vous y êtes allé, parce que c'est un endroit extrêmement dangereux, c'est une cavité très sinueuse avec très peu de place.
Oui. Oui, c'est d'ailleurs, ça pose d'ailleurs quelques questions, effectivement, parce que c'est une cavité, même pour un spéléologue, qui est très étroite, on vide la poitrine, un bras devant l'autre, etc. Il faut pousser avec les pierres.
Vous êtes spéléologue, vous?
Je
hein
suis spéléologue.
Oui, heureusement.
Ça aide, mais je vous avoue, on l'a visité avec José Braga, et je vous avoue qu'on a eu quelques doutes quand même devant l'étroitesse des passages. Donc voilà. Donc après.
Vous y avez laissé une côte, hein, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Au passage.
Oui, mais j'ai laissé une côte, bon, ça facilite le passage, une fois qu'elle est cassée, mais sur le moment, oui, c'est un peu douloureux. Donc voilà, ça veut dire que vraiment, ça se mérite d'aller jusqu'à cet endroit-là.
Ouais.
Il y a une centaine de mètres de progression. Et cette chambre, donc, cette pièce, est relativement reculée par rapport à la surface.
Ouais. José Braga, comment on explique justement que Homo naledi ait pu atteindre cet endroit? Qu'est-ce qu'il allait y faire exactement?
Alors il faut bien, et je pense que Laurent vous en parlera mieux que moi, mais il faut bien voir que la géométrie des grottes, de cette grotte en particulier, a certainement dû changer au cours des millions d'années, et il est fort possible qu'une autre entrée qui devait exister à l'époque, par laquelle éventuellement les vestiges sont arrivés, et bien que cette autre entrée ait été colmatée depuis deux, voire plus de millions d'années.
Laurent Broussel.
Oui, alors ça c'est le gros problème de l'interprétation rituelle en tout cas de ces dépôts. C'est effectivement comment même un australopithèque ou un homo de petite taille peut faire passer des corps dans ces boyaux.
Oui.
Déjà quand on est vivant c'est difficile, donc imaginez un corps ou des ossements. Comment on les amène aussi loin sous terre? Et puis si c'est le cas et si ça a 2 millions d'années, il y a un autre scoop. C'est comment? C'est clair. Parce qu'il faut y arriver jusqu'au fond dans la grotte.
Oui.
Donc il faut de la lumière.
C'est vrai.
Et ça, donc effectivement, et comme José le dit, je pense que l'approche de la géologie de la grotte, de sa géométrie, de ses liens avec la surface, n'ont pas été suffisamment poussées et qu'il faut réfléchir à d'autres entrées et à d'autres moyens d'accéder à cette salle.
Qui n'aura pas été encore découverte, évidemment.
Très sûrement.
Est-ce que, alors sur la datation justement, José Braga, pour l'instant c'est point d'interrogation, même si on parle de 2 millions d'années, donc le début du genre homo, mais quand est-ce qu'on va avoir le chiffre exact à votre avis?
Alors écoutez, peut-être que le chiffre exact est déjà disponible et qu'il sera publié dans un deuxième temps, mais il est fort possible qu'une date soit publiée assez rapidement maintenant, puisque effectivement, ça fait après ce buzz, on a réellement besoin d'avoir un peu plus d'informations sur cette date. Il est toujours très difficile de dater un fossile à partir de sa morphologie, puisque je ne sais pas si vous avez en tête par exemple Flores, hein, ce petit homme nain qui vivait en Indonésie il y a 14 000 ans, sa morphologie est tout aussi primitive que celle de Naledi, et pourtant son âge est beaucoup plus récent, 14 000 ans seulement.
Et est-ce qu'il aurait été capable de déposer ses morts, à votre avis, alors que c'est un rituel qui n'est pas associé, en tout cas, à des fossiles aussi âgés, José Braga?
Alors, déposer ses morts, pourquoi pas? Mais dans les conditions qu'a évoquées Laurent tout à l'heure, puisque nous avons également visité cette grotte, ça me semble totalement impossible.
Oui. Une question de Alain. Est-ce que le paranthrope dont vous parliez tout à l'heure, José Braga, aurait pu remplacer l'homme dans son évolution?
Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire si les conditions lui avaient été beaucoup plus favorables. Paranthrope a disparu il y a 1,2 million d'années, on ne sait pas pourquoi. Mais ce qui est clair, c'est qu'il était très spécialisé vers une niche écologique très particulière, puisque nous consommions de la viande, nos ancêtres, depuis déjà presque 1,5 million d'années, alors que eux ne consommaient que des tubercules, des végétaux très coriaces, et c'est peut-être la raison de leur disparition, une plus grosse compétition avec l'homme et une moins facile accessibilité aux ressources.
Laurent Broussel, pour terminer, la Namibie, c'est le prochain voyage pour vous, là, avec José Braga?
Oui, tout à fait, c'est le prochain défi, puisque si on part de l'idée que l'Afrique, c'est le berceau, et qu'il faut aller chercher les pièges géologiques, eh bien, nous avons identifié, en Namibie, il y a plusieurs secteurs très intéressants, dont un nous semble justement rassembler toutes les conditions à la fois pour piéger les fossiles au bon moment et surtout pour les préserver jusqu'à aujourd'hui. Donc une nouvelle aventure qui démarre quasiment à zéro parce que c'est de l'exploration.
Et il faut de la patience dans votre domaine aussi.
Il faudra du temps. Donc là on en parlera, il faudra un peu plus temps pour amener des résultats probants.
Allez, bonne chance en tout cas. José Braga, merci aux équipes de France Bleu à Toulouse qui nous ont permis ce duplex. Merci beaucoup.